Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Marie et les œufs en neige, épisode 5. Génération désenfantée.
J'ai adoré les vacances. Ça veut rien dire parce que je suis freelance, mais juste j'ai pas foutu grand chose cet été. Que m'amuser. Je me suis laissée glisser. À prendre un petit verre avec Lucie qui devient une, puis deux, puis trois fêtes différentes avec des inconnus. Aller au casino, jouer au blackjack avec un pote de Rupert, parce que quoi ? Parce qu'on passe devant. J'ai vu Marcel, pas mal. J'ai suivi les plans des uns, des autres, des trucs que je fais jamais. Aller aux puces ou sur les bords de la Marne. J'ai passé des journées à flâner dans le Paris de la fin août. J'ai surfé les vagues de la vie, quoi. Et même des vraies, celles de la mer. Quand on a décidé de partir dans les Landes avec Céleste. Et franchement, je me démerde. Sauf que là, on est 3 semaines après, et je bois un peu la tasse.
Donc on se voit dans un contexte de FIF, c'est ça ?
De conservation de la fertilité, ouais.
Ok, très bien. Ok, alors, donc ce sera la première ponction, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, très bien.
Ne vous méprenez pas. Cette distance, c'est de la panique. J'ai peur.
Est-ce que vous avez des dents fragiles, des dents qui bougent ?
Pardon, je suis surprise. Je viens de me faire arracher une dent de sagesse.
D'accord. Non. Il n'y en a pas qui bougent. De toute façon. Ok, je vous laisse ouvrir grand la bouche, tirer la langue. C'est parfait. Je vous pose cette question parce que du coup, ça se passe sous anesthésie générale. D'accord. On vous endort complètement.
Et ça, c'est obligé.
Ouais. Ça vous angoisse ?
Oui. Atrocement.
C'est normal, hein, c'est la première fois, etc. Ouais. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous prescrire un petit truc pour vous détendre si vous le souhaitez avant, ouais. Quand vous arrivez. Comme ça, ce petit anxiolytique qui ne vous foutra pas, hein, mais donc on peut faire ça. Si oui. Vous le voulez, ça vous... Voilà. Donc la façon dont ça va se passer, vous allez recevoir donc, au moment venu votre convocation avec l'heure d'arrivée, etc. Donc quand vous arrivez, on vous installe dans une chambre qui est au premier étage. On vous donne un très beau pyjama, vous changez et tout, magnifique.
Ah, le pyjama, c'est cool. J'aime les pyjamas. Ça fera un souvenir.
Quand c'est votre tour, donc on vous descend en bloc opératoire. Donc là, on vous posera plein de questions, on vérifiera comment vous appelez, etc. Plein de fois les mêmes questions.
Okay.
D'accord. Ensuite, on vous posera une perfusion, donc sur la main ou le bras à peu près. C'est un moment un peu désagréable, mais c'est le seul, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, on vous emmènera donc en salle de bloc, on vous équipe de tous les appareils de survie.
Trop d'informations. J'imprime pas.
Donc agent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 6 heures pour les repas. Donc vous êtes convoqué, ou plutôt vous passerez à 8h. Donc on va dire jusqu'à 2h du matin si vous avez une fringale nocturne, ouais. Vous avez le droit sans restriction. Vous mangez une choucroute, un couscous, ce que vous voulez.
Franchement, ça va. Pas manger de choucroute pendant 6h, ça va.
Après 2h du matin, pas de petit-déj. Et pour les boissons, les liquides clairs, c'est 2h. Donc les liquides clairs, ça veut dire de l'eau, mais ça peut aussi être du café.
J'ai aussi une très grande angoisse d'avoir soif. Enfin, je bois de l'eau tout le temps. Mais ça veut dire qu'il y a 2h où je peux pas
ouais,
boire d'eau.
C'est ça. D'accord.
Ok.
Alors vous pouvez avoir un petit brumisateur, il y en a, enfin on en a ici pour vous. On va dire que c'est pas vraiment boire, mais ouais. Ça permet d'humidifier.
Genre me pchiter de l'eau, genre ? Ça va pas suffire.
Bien sûr.
Ouais. Et par curiosité, du coup, pourquoi ouais. Est-ce que c'est ? Parce que pendant un moment, ça n'était pas nécessairement sous anesthésie générale.
Alors en fait, ça dépend des centres. À Angers, c'est sous anesthésie générale. En fait, parce que c'est plus confortable pour vous et pour le gynécologue. En fait, la ponction d'ovocyte, c'est quand même un geste qui est très précis, très minutieux. Voilà, c'est ça. Et puis, on vous donnera aussi du paracétamol, un antiinflammatoire.
On me dit qu'on me donnera des trucs pour pas avoir mal, mais je m'en fiche de ça. J'ai pas peur d'avoir mal, j'ai juste très peur d'avoir soif.
Est-ce que vous avez des questions particulières, du coup, en plus, ou des choses d'interrogation, des choses...
Non, ma question c'était est-ce que c'est obligé ? Oui. Et c'est quoi ? En fait, qu'est-ce que c'est comme... C'est de la curiosité, hein, je sais pas.
Ouais, dites-moi.
Qu'est-ce qu'on met comme...
Comme médic.
Ouais.
Pour faire dormir ?
Ouais.
Donc on met deux médicaments principaux, un produit qui s'appelle le Propofol, qui fait dormir, c'est un hypnotique, donc ça fait dormir.
Le truc, c'est que j'en ai avalé de l'hypnotique dans ma vie avec mes insomnies. Elle dit ça compte pas. Ils endorment par piqûre, et après ils maintiennent l'endormissement avec des gaz via un masque. Donc je peux pas me réveiller pendant. Ok, d'accord, du coup j'ai aussi peur de jamais me réveiller. Elle dit que ça non plus c'est pas possible. Mais bon.
Quelqu'un okay. pourra venir vous chercher?
Ouais.
Ouais, ok. Donc oui, vous êtes avec vos parents, donc ils seront avec vous, parfait.
Bon, là, présentement, je repars toute seule. Femme indépendante, oui, mais assoiffée aussi. Rien que de penser à ces deux heures, là, je suis pas bien. Je sais plus pourquoi je fais ça, franchement. Ça me paraît insurmontable, je vais pas le faire.
Attends, Marie, c'est pas deux heures sans boire d'eau qui te font hésiter, là, quand même.
Non. Je crois que Céleste a raison, c'est pas que ça. Souvenons-nous, il y a trois semaines, j'en étais à surfer sur tous les chemins de toutes les vagues de toute la vie. Et puis, je suis rentrée. Et puis, les Grecs sont venus à Paris. Et quand je dis les Grecs, je veux dire un couple d'amis de mes parents qui sont aussi mes amis et qui n'ont pas d'enfants. Et qui sont Grecs, sinon ce serait bizarre de les appeler comme ça. Ils ont 70 ans, Harris est photographe et peintre, Marie tient une boutique de mode à Thessalonique, et ils ont une belle vie. Je le sais parce qu'il y a quelques années, avec Céleste, on est allé en vacances chez eux sur l'île où ils vont tous les étés. On buvait des cocktails en regardant les étoiles le soir, on se baignait tous les jours, on se nourrissait de feta et de baba ganoush, et on lisait sur le sable. C'était le rêve. À part les petits moments de gêne, parce que eux et leur groupe de potes septuagénaires ne portent pas de maillot de bain à la plage. Dans l'idée, oui, hein. Mais bon, dans la pratique, c'est beaucoup de concentration, niveau orientation du regard. Mais à Paris, là, on était tous les trois habillés, ils sont venus boire un verre chez moi, et très vite, je leur ai posé 1000 questions sur eux, leur choix, leur vie sans enfant.
Toutes mes copines rêvaient du prince et de la famille, quoi. Et... j'ai jamais rêvé ni prince, ni enfant, ni mariage, ni rien.
Le prince est là pourtant.
Oui. Mais il est venu pas comme prince, tu vois. C'était d'abord un ami qui est devenu ensuite mon homme, quoi.
Ouais.
Harris non plus, il en a jamais voulu des enfants. Non. Enfin, il dit qu'il s'est jamais investi là-dedans. Sans doute à cause de la responsabilité.
Tu me diras, responsabilité quoi ? Et moi, je plaçais l'existence d'un enfant, tu vois, d'une nouvelle vie, dans l'hiérarchie de ma tête, des valeurs, comme première. C'est-à-dire, je savais que si j'ai un enfant, il aura la priorité devant toutes les autres priorités que j'aurais eues. Je serais responsable, non seulement pour sa naissance, pour sa vie.
Ouais. Ah oui,
tu vois, je savais que c'était lourd. Et donc, il peut y avoir aussi une notion de peur de l'assumer.
Peut-être qu'il avait trop peur pour avoir envie. Mais de toute façon, d'après lui, et d'après elle aussi, c'est la vie de Marie qui comptait. Si elle avait voulu, il aurait accepté. Sauf que voilà.
Chaque moment de ma vie, ça me plaisait tel quel. Je voulais pas que ça change. Et comme je me sentais bien, je voulais que ma vie reste ma vie à moi et pas ma vie à travers la vie d'une autre personne. Et quand tu commences à lire le deuxième siècle de Beauvoir et tout ça, tu commences à réfléchir un peu plus. En plus, l'expérience à travers les amis, ça m'a confirmé oui. encore plus.
Là, vous n'aviez pas envie, ni l'un ni l'autre, d'être comme eux, quoi, de vivre leur vie.
Non.
Non. C'était pas tentant.
Vraiment, vraiment. Pourtant, on a des bons amis qui sont très heureux d'être parents. Et d'ailleurs, voilà, par exemple, la preuve. On est très heureux de t'avoir comme ami,
ouais.
que tu es la fille de nos amis. Mais c'est pas ça qui m'aurait poussé à faire un enfant.
Marie est tombée enceinte plusieurs fois pourtant. Et la quatrième fois, elle avait presque 40 ans. Cet avortement-là, c'est lui la vraie décision. Les autres, il y avait toujours une possibilité après, plus tard. Alors ils ont réfléchi, mais en fait ils savaient. Et ils n'avaient pas peur de regretter dans leur vieillesse.
Mais j'ai toujours su qu'on ne pouvait jamais projeter comment ça va être l'avenir. On ne sait jamais ce que ça peut nous arriver le lendemain. Tu tombes amoureux d'un autre, tu tombes malade, tu meurs, tu n'existes pas. Donc, rien n'est sûr, rien n'est donné.
Elle se souvient de ce couple d'amis, dont l'homme disait qu'il voulait des enfants pour pas finir comme des vieux cons tout seul.
J'ai le malheur de lui dire, qui t'a dit que tu vas vieillir ?
Il est mort à 50 ans. Et sa femme a eu la maladie d'Alzheimer peu après. Eux, Harris et Marie, ils ont eu le temps de vieillir depuis leur décision.
Oh, de cette décision, sont passés 30 ans. Hein ?
Ouais.
Bah, elle n'a pas regretté. Elle n'a jamais regretté.
Vous n'avez jamais collé, jamais.
Jamais elle n'a regretté. Alors que s'il avait fait le contraire, elle risquait de le regretter sans pouvoir le regretter.
Tu ne peux jamais nier une fois que tu as fait un enfant. Même si l'enfant meurt, tu ne peux jamais nier cet acte. Tu ne peux jamais dire « Ah, je me suis trompée, non, je ne veux pas. » C'est fini.
Oui,
c'est définitif.
Et après, alors, la trace qu'on laisse, tout ça, on dirait qu'ils n'y pensent pas.
Cette histoire de trace, c'est-à-dire, on est venu dans ce monde et puis on repart de ce monde. Et qu'est-ce qu'on est venu ? On est venu foutre dans ce monde aussi, si aucune trace de nous ne reste. Hein? Mais laisser une trace, on la laisse aussi avec ce qu'on fait. C'est une histoire de mémoire là, qui commence à intervenir.
Bon, si clairement ils y pensent.
On laisse une trace.
On laisse une trace.
Pour combien de temps ? Et pour qui ?
Leur idée, c'est que la mémoire à travers tes enfants, ça dure max 2 générations. Après, finito. Enfin, ça dépend des familles. Mais oui, moi, je fais pas vivre mes grands aïeux dans ma mémoire, par exemple. Je sais même pas qui c'est.
Je fais tellement de choses. Et je dépose beaucoup de choses tactiles, tu vois, concrètes, qui sont chargées de mémoire, de ma mémoire, tu vois. Alors, ma mémoire reste. C'est un substitut, tu me diras. Mais
entre ces peintures, ces livres, des choses qui existent et qui existeront.
Il est évident qu'on peut aussi caser ça du côté de la vanité. Hein. Je veux dire, mémoire. Mais c'est vain aussi, hein, c'est la vanité. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu t'en fous qu'on se rappelle de toi dans 3 siècles, puisque tu ne seras pas là, alors tu ne peux pas en jouir.
Non. Hein. Ouais.
Donc c'est la négation de la mort.
Mais
on ne meurt pas. Si la mémoire vit.
Ouais.
On a aussi un peu parlé de moi, de cette procédure avec laquelle j'arrivais pas à être à l'aise.
On t'enlève les ovaires, ouais. Et voilà.
On t'enlève pas les ovaires.
Non, on vient pas.
Comment s'appellent les... On te prend quoi ?
Les ovules,
les ovocytes.
Ils étaient pas ultra au fait, mais ça m'a touché leur implication, pudique et sincère. Ils ont dit, faut le faire, si j'ai le choix et que je me pose la question.
Et qui c'était le philosophe ?
Oui.
Le philosophe grec, quand on lui a posé la question « Pourquoi vous ne faites pas d'enfants ?» Il a répondu « Parce que j'aime les enfants. »
C'est qui ?
Aristomène, sans doute. Aristoménès, ça devrait s'exprimer.
Enfin, tu vas le trouver si
je regarde.
Bon, et cherchez pas des heures comme moi, c'est Thalès qui a dit ça.
Et il n'a pas fait d'enfants, mais il aime. Comme moi aussi, j'aime les enfants. C'est pas « Je vois des enfants, je dis « Ah, quelle horreur !» Absolument pas. Et les enfants m'aiment beaucoup. Les enfants m'aiment et j'aime.
Et moi aussi.
Pas attaché à
moi aussi, je t'aime.
Après ça, je me suis sentie soulagée. Je me reconnaissais dans ce qu'ils disaient. Et c'était cool de se dire qu'on pouvait vivre heureux sans enfants, sans regrets, qu'on pouvait s'épanouir autrement. Enfin, eux, ils sont 2 et ils s'aiment. Alors ça change un peu la donne. Oui, parce que je vous ai pas dit, Marcel, faut oublier. Vous vous souvenez cette meuf toute fraîche avec de belles bottes que j'ai croisée en sortant de chez lui ?
Bonjour.
Bah c'était sa meuf. Marrant, hein ?
J'ai pas trouvé l'occasion de te le dire, pas de virgule, mais ça fait 2 ans que je suis casé, 2 petits points. Je trouve ça important de te le dire, virgule. Mais j'ai adoré les moments avec toi et j'ai pas envie que ça s'arrête. Pas 2 points.
J'ai trouvé important de lui dire que si. Ça allait s'arrêter. Point. C'est fini. Fini les points de suspension en enfilade qui mènent juste à des gros murs. Fini l'absence de virgule qui étouffe le jugement. Je veux des vrais points d'interrogation qui accrochent. Pas des faux qui écorchent le cœur. Je veux des points qui ancrent dans le réel. Je veux plus d'histoires bancales, mi-fantasmées, mi-toxiques.
J'ai changé. J'ai changé, mais ça faisait quand même mal. Alors, pour pas craquer avec un petit « Tu fais quoi, je suis en bas de chez toi ?» C'est chez ma grand-mère que je suis allée.
Bonjour, ma belle.
Bonjour.
Je te vois, toute belle. Non, mais on voit pas.
Ah non, on ne voit pas. C'est juste le micro. Et en...
Enfin, dans la maison de retraite, où elle vit depuis peu, entourée de dames chics.
Je vais te dire, quand j'étais petite fille, comme toutes les petites filles, je me disais, hey, j'aurais tant d'enfants, je les appellerais comme ci, comme ça. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais je dois dire qu'ils sont arrivés sans que ça soit prévu. Je suis marié au mois de février et au mois de décembre, Dominique était là. Donc j'ai été tout de suite enceinte, quoi.
Mais oui, t'aurais plus préféré...
Oui, avoir une période à deux, quoi.
Ouais. Grand-père, il aussi, il avait toujours voulu des enfants ?
On n'a pas eu le temps d'en parler, hein. C'est arrivé...
oui, c'est vrai.
Je crois qu'il était très content, oui.
Oui, quand vous avez décidé de vous marier, c'était même pas une
question. Non, pas du tout. C'est parce que on s'aimait, quoi. Mais on n'a pas parlé de « on va se marier pour avoir des enfants hein. ». Et je regrette pas parce que ça m'a apporté beaucoup.
Oui.
Et c'est ma raison de vivre.
Je réalise que nous, sa raison de vivre, on n'est pas tout le temps là en vrai. D'ailleurs, ma grand-mère, elle vit avec d'autres grand-mères, entre elles. Et il y en a une parmi les dames dont les petits-enfants n'ont pas d'enfants. Les jeunes, dit-elle, ne veulent plus trop en avoir.
Oui, une dame avec laquelle je déjeunais et on parlait des enfants et elle me disait qu'elle avait une petite fille qui ne tenait pas à avoir des enfants parce qu'elle avait peur de l'avenir. À cause du réchauffement climatique, des conditions de vie...
J'en connaissais des gens qui se posaient ces questions. À vrai dire, je bossais même avec eux sur un projet de documentaire. Rien à voir avec la parentalité.
Comment
c'est,
Alex?
J'avais besoin d'en parler. Tu veux juste te mettre plus proche de lui, parce que je sais qu'elle a une petite voix.
Clément, 25 ans, un mélange assez fou de talent, de sagesse et de capacité à laisser la connerie le gagner. Et Julie, sa copine, que je connais moins. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a le regard tout doux, qu'elle a été championne d'haltérophilie et qu'elle a des crocs nacrés que je lui envie fort. Je suis passée chez eux dans leur appart à Saint-Denis qu'ils ont retapé eux-mêmes. Il y avait du café filtre et des mirabelles. C'était encore la saison. Julie et Clément font attention. Zéro déchet, lessive maison, jamais d'avion. Je leur ai demandé si leur engagement écologique pourrait les empêcher d'avoir des enfants.
C'est horrible parce que genre il y a une énorme partie de moi qui a grave envie. Et après en fait il y a le côté ouais genre écologie genre de ce que tu l'impact qu'il pourrait avoir et surtout en fait genre dans quoi il va vivre. Il y a aussi un peu ce truc là de genre. En vrai, genre, plus le temps avance, moins j'ai envie d'aller vivre dans le temps qui avance, tu vois, genre, je me dis dans 5 ans, dans 10 ans, c'est chaud. Et même si tu fais un gosse, lui, ça va être dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc, en fait, genre, c'est moins de l'empêchement que c'est de l'inquiétude, tu vois.
Cette inquiétude, elle a amené Julie à se dire qu'elle n'aurait peut-être pas d'enfant.
Moi-même, j'avais très peu d'espoir sur ce qui allait nous arriver. Enfin, tu vois, quand je voyais... Bah, surtout en été, genre, je trouve qu'en été, on a tout le temps un regain de... Putain, ça brûle de partout, enfin, tu vois, il n'y a rien qui va et tout... Même politiquement, avec ce qui se passe, c'est compliqué. Et du coup, je m'étais dit, ouais, genre, mais moi, j'ai pas méga envie d'évoluer dans ce monde-là. Du coup, est-ce que j'ai envie de faire vivre ça à quelqu'un? Enfin, je suis pas sûre, quoi. Est-ce que même c'est viable, tu vois? Est-ce qu'on se dirait pas, genre, ok, les gars, en vrai, on arrête là, de toute façon, il va faire genre 60 degrés.
Arrêtez les frais, c'est pas la peine.
Arrêtez les frais, arrêtez de vous faire souffrir, c'est bon.
Ouais, en même temps, il y a une partie de moi genre, qui est assez drôle, qui pense beaucoup, il y a ce truc un peu de. On peut aussi genre faire une génération meilleure et genre tu te dis genre c'est forcément la génération d'après qui va reconstruire parce que sinon c'est la merde parce que si tous les gens qui ont une conscience écologique pensent que faire un enfant c'est pas bon, à la fin il y aura que des rednecks et des gens qui vont faire des enfants.
Oui, on s'était dit ça, on s'était dit qu'il y aurait que des connards du coup.
C'est-à-dire que, genre,
Julie a aussi invoqué le temps et l'énergie que ça devrait prendre de s'occuper d'un enfant en restant engagé écologiquement. Les lessives, les couches. Et c'est vrai, ça fait bouger tellement de choses dans le rapport au désir d'enfant, l'écologie. Alors oui, ils sont peu nombreux, ceux qui veulent pas faire d'enfants pour limiter le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources et sauver la planète. Mais ils existent. Ils seraient 5% en France. Et oui, le chiffre des 60 tonnes d'émissions carbone par enfant, on sait maintenant que c'est pas le bon calcul. Qu'un enfant n'a pas le même poids carbone partout, et que le levier démographique a un impact faible face à l'urgence climatique qui demande qu'on actionne surtout plein d'autres leviers. mais ils seraient 39% à hésiter à mettre un enfant au monde, comme Julie et Clément, par peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins dans ce monde-là, qui brûle de partout. Alors on s'est demandé ensemble pourquoi, malgré ça, beaucoup pensent que de ne pas faire d'enfant, c'est égoïste.
Genre une femme enceinte qui fume à une terrasse, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est nécessaire de lui dire que c'est pas bon de fumer, tu vois, parce que genre c'est un bien commun et que c'est la vie et qu'il faut protéger la vie et tout. Et du coup, je crois que ce truc d'égoïsme de pas en avoir, c'est genre, il y a ça. Tu vas pas procréer pour continuer le monde. Tu vois, tu vas pas entretenir l'humanité. Et il y a un truc aussi, je crois, de... Je sais pas, même dans des commentaires Insta, de comptes de meufs qui disent « Ouais, j'aurais pas d'enfants », de femmes qui veulent se faire stériliser définitivement. Moi, j'ai une copine qui a voulu le faire. Et en fait, elle a vu genre 10 gynécos, je crois, qui leur disaient « Mais non, mais vous, c'est tellement horrible, parce que vous faites, vous imaginez pas la chance que vous avez de pouvoir procréer. » Et genre, il y a tellement de femmes qui peuvent pas et pour qui c'est une souffrance énorme que c'est dégueulasse de pas l'utiliser, cette chance, quoi.
Ouais, mais un mec en fauteuil roulant, il va pas aller voir les gens en lui disant « Mais cours, profite ouais, de tes jambes, genre fonce et tout, c'est égoïste de rester là, tu vois. »
Je ne reste pas dans ton canapé.
Non, moi, genre, c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux, quoi.
Enfin, on a parlé du fait que c'était illusoire de s'enfermer dans des codes quand tout bouge depuis toujours.
Mais j'ai l'impression que c'est presque plus toléré de briser certains codes pour avoir un enfant que de briser certains codes pour ne pas en avoir. Enfin, tu vois, par exemple, moi, j'avais une prof de sport au collège qui avait justement fait un enfant toute seule. Je pense vraiment avec un don de sperme, fils et tout. Et c'était hyper admiré. Et même moi, j'avoue, je m'étais dit, ouais, c'est cool en vrai. C'est-à-dire qu'elle attendait pas forcément de tomber sur le prince charmant pour faire ce qu'elle avait envie de faire. Mais par exemple, j'ai l'impression qu'à l'inverse, une femme qui brise les codes pour ne pas en avoir, genre se faire, par exemple, ligaturer et tout, et ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins positif. Genre, j'ai l'impression que dans tout, genre procréer, c'est toujours méga positif, et ne pas le faire, c'est super, tu vois.
Alors voilà, c'est compliqué pour tout le monde, dans tous les sens. Et je me dis... Là, dans ma voiture, de retour du Seco, c'est avec une boule dans le ventre, alors que je m'apprête à retrouver toute la famille à la maison pour fêter l'anniversaire de mariage de mes parents, je me dis qu'en fait, j'en veux pas. Des enfants. C'est ça qui résiste. J'ai pas envie d'être inquiète en permanence. J'ai pas envie d'avoir un ado chez moi. J'ai pas envie de dire « Ah, ce week-end, on revit, là, ils sont chez leurs grands-parents dans le Cotentin, on respire ». Apparemment, mes beaux-parents auraient une propriété en Normandie. Franchement, moi, ça me va. J'ai peur de m'engager pour la vie entière. D'être responsable d'une vie entière. C'est un monde entier, un enfant. Qui va souffrir, parfois. Qui va avoir peur. J'ai peur que ça soit trop. Et trop d'amour aussi. J'ai peur que ça me submerge. J'ai peur que ça me désintègre. Mais je crois que c'est ça. J'ai peur, et j'en veux pas.
Ah, Marie !
She's back ! C'est Tata Mac qui est arrivée !
C'est Tata Mac qui est arrivée !
Eh oui !
Je suis montée direct à l'étage, pour vérifier un truc. Et oui, j'avais mes règles. C'était le moment d'appeler le Sécos. Le début du protocole. Mais non, j'appellerai pas. Ouais, je suis sûre. Tant pis.
Marie, tu veux venir avec nous ?
On a coupé plein de carottes. Il y en a énormément.
J'adore les carottes. Je décide d'aller retrouver tout le monde. Et je croise Malo.
Tata-ma, regarde, c'est mon truc, c'est que il faut...
Son t-shirt est sale. Il faut en choisir un autre.
Le t-shirt avec les dinosaures.
Mais c'est pas plutôt un pyjama, ça?
Oui, c'est un pyjama.
Ah oui, mais est-ce que t'as un t-shirt, un vrai habit?
Les escargots pour gosses.
Ça me fend le cœur. Ça, et quand il promène son petit vélo sans pédale à côté de lui plutôt que de monter dessus. Quand il veut faire des travaux et réparer tout l'électroménager de la maison. Quand il dit « Tu m'expliques ?» ou quand c'est lui qui explique, ou quand il a des élans de joie qui le dépassent. Et là, alors qu'il me prend par la main, enfin par le doigt plus exactement, avec sa petite main à lui toute douce et son regard d'amour tout pur, je suis plus trop sûre de rien.
Regarde, j'ai trouvé le livre musical.
Oh !
Il y a des parents qui chantent. Regarde, c'est un piano.
Vas-y, aimez la musique ?
Ok.
C'était le cinquième épisode de Marie et les œufs en neige, une série Paradiso Média. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des étoiles et à nous écrire aussi. Vraiment, on aime bien vous lire. Cette série a été écrite par Marie Cahu, co-réalisée avec Théo Albaric et produite par Suzanne Collin.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.